Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps de limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors ce soir, un épisode dédié à DNSSEC avec Stéphane Bortzmeyer. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonsoir.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Jean-Marie.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Stéphane, bonsoir. Alors, selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser DNSSEC?
Fondamentalement, c'est parce que quand on envoie une requête DNS et qu'on reçoit une réponse, il n'y a vraiment aucune protection sur le trajet contre un méchant qui aurait remplacé la réponse par autre chose, ou même simplement qui aurait répondu à la place. Même les protections minimum que fournit TCP, c'est-à-dire faut établir une session au début, faut avoir le numéro de séquence, c'est tout ce qui empêche l'injection aveugle de paquets dans une connexion TCP, tout ça n'existe pas dans le DNS qui fonctionne sur UDP. Donc c'est un peu trop facile avec le DNS normal d'injecter une réponse ou de remplacer la réponse, et comme tout le reste de l'Internet repose sur le DNS, si on a réussi à injecter une fausse réponse aux requêtes d'un résolveur, en plus il va les garder dans son cache, donc il va les distribuer à tout le monde. Ce problème de l'empoisonnement DNS est très ennuyeux, et c'est là le rôle de DNSSEC, d'avoir la possibilité de détecter ce genre d'empoisonnement et de ne pas se laisser entraîner sans s'en rendre compte vers une autre destination telle qu'on voulait.
Quel est le statut de DNSSEC aujourd'hui? C'est en draft? C'est utilisé?
Le statut du point de vue de la normalisation, les RFC ont été publiés il y a pas mal d'années, je me souviens plus combien. Enfin, ça fait plusieurs années que c'est normalisé. C'est implémenté dans tous les logiciels DNS depuis également plusieurs années, mais au début, il y a eu quelques problèmes avec des logiciels PASSEC. On peut dire que c'est depuis 2010-2011 que ces bugs ont été supprimés et que c'est vraiment utilisable sans avoir des surprises vraiment curieuses. C'est déployé après dans la racine, dans tous les TLD importants. Alors là, je suis un peu de mauvaise foi parce que je décide moi-même de quels sont les TLD importants. Pour moi, .com, .org, .fr sont importants, et je suis désolé pour .ml ou .tk, mais je ne les considère pas comme importants. Ensuite, les domaines en dessous, un niveau en dessous, ça dépend des pays. Les Norvégiens ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient battu le record du nombre de domaines signés par un TLD qui était avant détenu par les Néerlandais, qui avaient, je crois, 70% de leurs domaines signés. Les Norvégiens font maintenant mieux. Par contre, bon, dans .fr, on en est beaucoup moins que ça, c'est plutôt moins de 10%. Et puis, ça, c'est ceux qui signent les données, c'est-à-dire qui envoient des données signées cryptographiquement. Après, il faut les valider à l'autre bout. Ça se fait dans les résolveurs, soit du fournisseur d'accès Internet, soit du réseau local, soit le résolveur perso des gens sur leur machine pour les plus parano. Et là, des résolveurs qui valident, les deux grands connus aux États-Unis, c'est Comcast qui valide, ça doit quoi être 20-25% du marché d'accès Internet aux États-Unis. En France, c'est Free. Et puis, indépendamment des FAI, Google Public DNS valide aussi. Donc en fait, entre la part de marché de Free et celle de Google Public DNS, on peut dire qu'à Pifomet en France, entre 20 et 30% des utilisateurs sont protégés par DNSSEC, même s'ils ne le savent pas.
Alors j'ai une question pour toi. Depuis le début, tu parles beaucoup de signature. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a juste l'intégrité des requêtes qui sont protégées, ou est-ce qu'on parle aussi un peu de confidentialité?
Alors la confidentialité est exclue de DNSSEC, donc c'est uniquement l'intégrité et l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire que ça vient bien de la zone en question, c'est-à-dire que si je reçois une réponse pour www.iotf.org ou www.afnic.fr ou ce genre de choses, je sais que c'est bien l'IETF dans le premier cas, que c'est bien l'AFNIC dans le second cas qui a créé ces données en question. Pour la confidentialité, il y a un autre projet actuellement en cours à l'IETF, le projet DNS Business Privacy, dont le premier RFC, le Problem Statement, a été adopté aujourd'hui par l'IESG. Donc on avance, mais c'est après, c'est le problème statement, il reste à développer des solutions, et c'est complètement indépendant de DNSSEC. Donc DNSSEC, c'est effectivement intégrité, authenticité.
Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de confidentialité. Le DNS est une base de données publique, il n'y a rien à rendre confidentiel.
Les données sont publiques, le fait qu'on y accède l'est pas. Par exemple, le site web des alcooliques anonymes est public. Le fait que j'accède au site web des alcooliques anonymes est une information que j'ai pas forcément envie que tout le monde soit au courant.
T'inquiète pas, il y a pas grand monde qui écoute ce podcast.
Et du coup, en fait, alors donc il y a un nouveau projet donc à l'IoT sur DNS Privacy, mais est-ce qu'il repart sur des travaux qu'il y a eu fait par d'autres personnes, genre je parle à DJB, qui est plutôt sur un protocole type DNS Curve, ou c'est quelque chose qui est totalement à côté
Il y a deux projets DNS Privacy, donc, qui donc n'a rien à voir avec DNSSEC, donc faut pas trop non plus s'égarer. Mais pour le projet DNS Privacy, il y a deux approches pour l'instant, il y en a peut-être d'autres qui se rajouteront. L'une, c'est de limiter la quantité de données envoyées, ce qu'on appelle la QNAME minimization, c'est-à-dire qu'actuellement, un résolveur DNS, il envoie au serveur de la racine puis du TLD la question complète. Donc, par exemple, s'il visite www.alcooliqueanonyme.fr, c'est ça qu'il envoie à la racine, alors qu'en fait, il suffirait qu'il demande les serveurs de FR. La racine n'a pas besoin de savoir autre chose. Donc ça, c'est une partie du projet, changer les résolveurs pour qu'ils minimisent les données envoyées. Et la deuxième partie, c'est de chiffrer le trafic. Et pour l'instant, la proposition sur laquelle travaille le groupe de travail, qui s'appelle spirituellement Déprive, la proposition sur laquelle travaille Déprive, c'est un système de chiffrement utilisant TLS avec l'argument que bah, TLS, on connaît, c'est établi, ça marche, on connaît les bugs. On sait qu'il y a des bugs, donc on n'est pas inquiet.
Tu peux expliquer comment marche DNSSEC en deux mots pour
les gens? Alors DNSSEC, donc en deux mots, ça consiste à ce que les enregistrements... Le DNS, c'est une base de données, effectivement. Les données s'appellent des enregistrements, resource records en anglais. Ces enregistrements, on les signe par de la cryptographie asymétrique, que du classique, hein, rien d'extraordinaire. Et ensuite, on transmet en plus de l'enregistrement les signatures. Et à l'autre bout, le résolveur, donc celui de Free, celui de du réseau local, celui va prendre les enregistrements et les signatures, vérifier que les signatures correspondent aux enregistrements, et ensuite vérifier que les signatures correspondent à la clé publique de la zone. Pour la clé publique de la zone, on la vérifie en vérifiant qu'elle est signée par la clé publique de la zone parente, et pour la clé publique de la zone parente, on vérifie qu'elle est signée par la clé publique de sa zone parente à elle, et ainsi de suite jusqu'à la racine. Donc DNSSEC reprend le modèle du DNS. Le DNS est arborescent, DNSSEC est arborescent aussi.
Et le client...
Donc, in fine, il faut en fait que chacun connaisse la clé de la racine, puisqu'on part de là.
Et le client, est-ce qu'il vérifie quoi que ce soit?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le client. Le client DNS ou le client au sens Monsieur Michu avec son navigateur web?
Voilà, c'est ça, Monsieur Michu avec son navigateur web.
Alors, en fait, le DNS, c'est une infrastructure. Normalement, M. Michu, il ne le voit pas. Donc, c'est pareil quand on le sécurise. Tout ça est fait en dehors de lui. Une des questions qui est ouverte actuellement, c'est qu'est-ce qu'il faut remonter aux applications. Pour l'instant, quand il y a un problème avec DNSSEC, quand il y a par exemple un homme du milieu qui a modifié les données, et donc que les données ne correspondent plus aux signatures, du point de vue de l'application, c'est simplement que la résolution a échoué. Donc, on n'a pas l'adresse IP qu'on demandait et on n'en sait pas plus. C'est un grand débat de savoir s'il faudrait que les applications aient les moyens d'avoir plus d'infos. Ça renvoie à des problèmes classiques en sécurité. C'est pourquoi il faudrait que les applications aient plus d'infos. Par exemple, pour pouvoir dire à M. Michu, « Oh, c'est un problème DNSSEC, est-ce que vous voulez passer outre et y aller quand même ?» Et ça, ce genre de choses, on a une expérience mitigée avec HTTPS. La tendance actuelle est plutôt de retirer l'utilisateur de la boucle de décision. Donc avec DNSSEC, ça tombe bien, comme c'est dans l'infrastructure, c'est-à-dire loin de l'utilisateur. Pour l'instant, il ne voit pas ce qui se passe. Il voit juste qu'il y a un problème, et ensuite il doit transmettre ça à son service informatique qui va essayer de s'en dépêtrer.
Mais du coup, en fait, il a quoi comme erreur? En fait, ça peut lui rapporter qu'on ne trouve pas le domaine, c'est-à-dire qu'il va avoir, en gros, comme si le domaine, il avait mal tapé l'URL, ou s'il avait quelque chose...
Ou si les serveurs de nom du domaine étaient tous en panne. La plupart des, si on prend l'exemple d'un navigateur web, la plupart des navigateurs web ne fournissent de toute façon aucun message d'erreur digne de ce nom. Le pire, c'est évidemment Internet Explorer, qui n'a qu'un message pour tous les problèmes. Mais les autres, c'est à peine mieux. Et donc ça permet pas vraiment à l'utilisateur de déboguer le problème. On peut comparer ça à une autre infrastructure qui est celle de BLP, où il y a aussi des travaux en ce moment pour le sécuriser avec la cryptographie. Bah, BLP, c'est loin de l'utilisateur. Quand ça, si ça déconne, s'il y a un problème, l'utilisateur ne verra pas. Lui, tout ce qui se verra, c'est ça marche pas. Là encore, hein, c'est faut tirer les leçons des problèmes qu'il y a eu avec HTTPS. Est-ce que c'est une bonne idée de demander à l'utilisateur, il y a un problème, voulez-vous continuer? L'expérience de HTTPS semble indiquer que non, c'est pas une bonne idée, parce que évidemment que l'utilisateur va continuer. C'est le leak, sinon il n'aurait pas commencé au début. Donc, dire à l'utilisateur, cette clé DNS, le domaine est signé, mais les données sont modifiées, ou je n'ai pas de chaîne de confiance depuis la racine, voulez-vous continuer? Ça a peu de chances de pouvoir beaucoup l'aider.
Alors, tu sais ce qu'on dit, hein, quelqu'un qui se pose la problématique de l'authentification et de la confidentialité, à un moment, il se dit, j'ai un problème, donc je vais utiliser une autorité de certification, et là, il se retrouve avec deux problèmes. Donc aujourd'hui, sur tout ce qui est transitivité des autorités de certification, comment est-ce que ça s'est réglé? Comment est-ce que je peux être sûr, par exemple, qu'un gouvernement qui aurait la main mise sur l'autorité de certification d'un point l'I, par exemple, L-Y, comment est-ce que je vais être sûr que lui, il ne va pas me faire une attaque de type redirection en signant de manière valide la chose?
Alors justement, un des points importants de DNSSEC, que je vois comme un avantage, c'est qu'il ne change pas le modèle de confiance. Le DNS est arborescent, ça veut dire qu'in fine, on a besoin d'avoir confiance dans la racine. Si la racine veut te trahir, de toute façon, t'es fichu. Et ensuite, tu dépends du TLD. Donc, par exemple, si tu vois un domaine qui est en point LY, tu dépends du gouvernement libyen, comme l'avaient découvert les gens de ce blog, la Violet, qui avait des contenus jugés illégaux en Libye et qui avait été sucré par Kadhafi, enfin une affaire qui avait fait un peu de bruit à une époque, parce que les gens avaient bêtement acheté un point LY en croyant que c'était cool comme nom, avant de découvrir qu'en fait, c'était le CCTLD libyen. Donc, DNSSEC ne change rien à ça. C'est-à-dire que avant, pour un CCTLD, par exemple, la loi du pays s'applique. C'est-à-dire qu'en Libye, la loi libyenne s'applique. Et donc, si on a un point LY, on dépend de la loi libyenne. Si on a un point com, on dépend de la loi états-unienne. Si on a un point fr, on dépend de la loi française et de la loi du gouvernement, de tout ça. Et DNSSEC, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne change absolument pas ça. C'était déjà le cas avant, c'est le cas après. Donc, pour prendre un exemple, si VeriSign décide tout à coup de modifier sa base et de changer ton .com, tu peux rien y faire. DNSSEC ne change rien, ni en bien ni en mal, face à ce problème.
Et c'est quoi le modèle exactement? C'est qu'il y a une autorité hard-codée pour le .com qui se retrouve dans les résolveurs et qui sont capables de la vérifier? Ou est-ce que c'est un peu plus intelligent que ça avec, je sais pas, du certificat de pinning, de la révocation, des mécanismes? Si demain une attaque crypto est trouvée, est-ce qu'on peut facilement renouveler les clés ou pas?
Oui, alors, enfin oui, non. On peut. Alors, le modèle, c'est que on a un certain nombre de clés publiques dans le résolveur, et ces clés publiques valident tout ce qu'il y a en dessous. La grande majorité des gens, les gens ordinaires, dans leur résolveur, ils n'ont qu'une seule clé publique, celle de la racine. C'est pas obligatoire. Par exemple, si pour des raisons de souveraineté, mettons que je gère l'informatique du gouvernement français, et que je voudrais que les différents ministères puissent entre eux faire du DNSSEC en dépendant pas du tout de la racine, je peux mettre la clé de FR dans les résolveurs. Mais le mode de fonctionnement, on dirait normal, le plus fréquent, c'est uniquement la clé de la racine, et tout le reste découle du caractère arborescent du DNS. Donc la racine valide.fr qui valide hsc.fr et ainsi de suite. Donc ça, c'est le modèle de base, parce qu'il a le gros avantage que c'est le modèle déjà du DNS. Donc il ne nécessite pas de nouveaux acteurs, ou de faire confiance à d'autres, ou de rajouter des gens à qui il faut faire confiance aux portes. Maintenant, pour la question pour savoir si on peut changer les clés, dans le DNS, toutes les informations ont une durée de vie qui est choisie par le serveur, on appelle le TTL, Time to Live, et c'est les gens qui gardent le serveur qui la décide. Donc, au bout de ce TTL, les caches virent l'information. Donc, changer une information, c'est juste attendre que le TTL soit passé et publier la nouvelle. Alors, publier la nouvelle et attendre que le TTL soit passé. C'est comme ça qu'on change les clés, par exemple. Changer d'algorithme est un peu plus délicat, c'est une question qui a été moins bien étudiée et pour l'instant qui fait l'objet de réflexion. Par exemple, c'est vrai que ça serait tentant de changer la clé de FR, qui est actuellement une clé RSA, de la changer en ECDSA, on va commencer à y réfléchir. Un des problèmes, c'est pas le seul, mais un des problèmes, c'est que effectivement, autant des changements de clé, il y en a eu des tas depuis le début, c'est un truc bien maîtrisé, autant le changement d'algorithme, c'est un chouïa plus délicat.
Et c'est quoi l'algorithme qui est utilisé actuellement ?
RSA par la majorité des gens. La principale exception, c'est Cloudflare qui signe toutes ces zones. Donc, et comme c'est un gros hébergeur, ça fait du monde, qui eux utilisent ECDSA. Parce qu'en fait, ils ont été les derniers à le faire, donc ils sont passés directement à ECDSA. Aujourd'hui, quelqu'un qui partirait de zéro, qui n'est pas signé pour l'instant, ça serait raisonnable sans doute de partir de ECDSA aussi.
Et quand tu dis RSA, c'est RSA SHA-1 ou RSA SHA-256 ?
Dans le cas de FR, c'est RSA SHA-256.
ECDSA, c'est pas le truc où Sony s'est gravement planté avec la PlayStation hein ?
C'est tout à fait. ECDSA a une faiblesse, enfin comme DSA d'ailleurs, une faiblesse bien connue qui est qu'il ne faut pas signer, enfin il y a un nombre, un paramètre d'entrée de l'opération de signature qui doit être imprévisible et donc changer à chaque fois. Et si on oublie de le faire, on retrouve la clé privée facilement. C'est effectivement un problème de ECDSA, mais bon, je veux dire, en même temps, l'erreur était énorme. Il y a des tas de gens qui utilisent DSA qui ne se sont pas plantés là-dedans. Après, DNSSEC, comme tous les protocoles IETF, a une propriété qui s'appelle l'agilité cryptographique, qui est la reconnaissance du fait qu'il n'y a pas d'algorithme cryptographique idéal, il n'y a pas d'algorithme cryptographique qui dure éternellement. Tôt ou tard, on a envie de changer. Donc le protocole n'a pas en dur l'algorithme cryptographique, on peut toujours en changer. Donc actuellement, j'ai pas la liste de tous les algorithmes standardisés sous la main, je regarde sur le serveur de l'IANA, mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est nettement RSA qui domine.
Et donc, sur Cloudflare, qu'est-ce qu'ils prennent comme nonce pour la signature CDSA ? Parce que j'imagine que si tu peux faire autant de requêtes DNS que tu veux, la probabilité que tu obtiennes deux fois le même nonce à la fin n'est pas négligeable avec les histoires de paradoxes et d'anniversaire et autres. Hein.
Alors, c'est une bonne question. Pour être franc, alors moi je ne suis pas vraiment un dieu de la crypto, donc je vais y aller sur la pointe des pieds parce que les gens de Cloudflare ont fait pas mal d'exposés et de publications sur leur système et je peux témoigner que c'est des gens qui savent ce qu'ils font et qui connaissent, donc ils ne font pas des erreurs aussi énormes. Par contre, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Je peux répondre à la question précédente de quels sont les algorithmes actuellement standardisés. J'ai la liste sous les yeux. DSA, RSA, ECDSA et Ghost. Donc on peut signer avec Ghost si on veut.
Tu as participé à ce groupe de travail ?
Oui.
Qui a poussé Ghost dans la liste ?
Alors c'était les gérants du .ru qui disaient qu'en Russie c'était légalement impossible d'utiliser autre chose parce qu'il y a une loi quelque part qui dit que toute ressource nationale doit être une sorte de RGS pour eux, l'équivalent de du RGS pour eux, qui dit qu'il faut utiliser les algorithmes nationaux et standardisés par le Ghost. Donc ils ont bien embêté pour ça, donc il a fallu traduire les normes du russe en anglais, en faire des RFC, et après quand ils ont signé .ru, ils ont utilisé RSA. Mais bon, chacun ses problèmes. Donc c'était de là que venait la demande. Par ailleurs, ça avait un intérêt intellectuel. Ça a été le premier algorithme à courbe elliptique qui a été normalisé pour DNSSEC. Donc c'était toujours bien, parce que les courbes elliptiques, c'est quand même drôlement chic. Quoi.
C'est pareil dans tous les produits et dans tous les protocoles. Hein. Les Russes, ils nous obligent à mettre leur truc à chaque fois. Et c'est implémenté dans tous les produits Apple, par exemple.
Bah, je sais que les téléphones vendus en Russie, ils doivent supporter le GLONASS, par exemple, comme système de localisation. Par contre, pour les protocoles crypto, j'ai jamais regardé, j'avoue.
Ghost a suscité assez peu d'intérêt en Occident. C'est bizarre parce que Ghost est documenté publiquement. Il y a des implémentations dans OpenSSL, enfin dans toutes les bibliothèques qu'on veut. On peut l'analyser, on peut essayer de le cryptanalyser si on veut, on peut faire plein de choses, mais curieusement, il y a eu très peu d'intérêt. On a un peu l'impression que il y a un préjugé stupide contre les cryptographes russes, que dire que ce qu'ils font n'a pas d'intérêt. À ma connaissance, personne n'a sérieusement... Enfin, il n'y a pas eu de publication sur des gens ayant sérieusement essayé de casser les algorithmes de Ghost. Ghost, c'est l'organisme de normalisation, donc ils ont plusieurs algorithmes. Celui dont je parlais pour DNSSEC, c'est celui qui est de l'algorithme asymétrique à courbe elliptique, dont le nom officiel est Ghost R3410.
Oui, donc Stéphane, donc si moi je suis maintenant un administrateur pragmatique et je me dis bon, je vais déployer DNSSEC, je vais analyser un peu la chose, je vais regarder, je me dis bon, aujourd'hui tous mes protocoles d'administration sont authentifiés, ils sont chiffrés, donc SSH, HTTPS, etc. Et donc du coup, ces problématiques d'homme du milieu ne se posent plus vraiment. Donc, est-ce que le mal de tête que va m'apporter la gestion de zone signée dans DNS m'apporte vraiment quelque chose en tant qu'administrateur ?
Alors, ceci dit, DNSSEC, c'est pas seulement pour soi, c'est pour les autres, pour ceux qui se connectent à tes ressources, à tes serveurs. Si on est sûr que les seules connexions utilisent des protocoles sécurisés, genre HTTPS et SSH, ça peut se discuter. D'un autre côté, c'est un pari bien imprudent. Il y a tout un tas de... Par exemple, il y a le courrier électronique, donc il y a le lookup de l'enregistrement MX dans le DNS, qui, à moins que, là encore, on impose TLS sur les serveurs SMTP, mais je ne connais pas grand monde qui fasse ça. Donc, il faudrait être sûr, absolument sûr, qu'il n'y ait que des services qui soient sécurisés par un autre moyen. C'est un peu un vieux problème en sécurité. Est-ce qu'on, une fois qu'on a sécurisé, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on sécurise plusieurs couches en se disant elles ne craqueront pas tout en même temps? Mais il y a aussi le problème beaucoup plus banal qu'aujourd'hui tout n'est pas sécurisé, tout n'est pas... Le courrier électronique est un exemple parfait, mais je peux citer aussi Hangout. Comment je sais que je suis vraiment connecté à Hangout, là, que je ne suis pas connecté à un truc pirate? Est-ce que c'est sécurisé par TLS? Je veux dire, sur le web, quand je me connecte, c'est en HTTPS sur Google, mais l'application Hangout sur Android, qu'est-ce qu'elle fait? J'en sais rien. Donc c'est difficile de garantir qu'on n'a que des liaisons sécurisées après. Donc c'est à ça que sert DNSSEC. C'est à boucher un des trous qui existe. Il y en a plein d'autres. Hein. Faut pas s'inquiéter. L'administrateur système, de toute façon, il n'est pas fini de travailler.
Mais les trous, c'est fini maintenant que Obama a signé un executive order pour dire que c'était SSL pour tout le monde, non?
Oui, mais là encore, est-ce que ça va vraiment être appliqué? Il avait aussi signé un executive order imposant DNSSEC pour tous les domaines dans .gov. Ça a plutôt mal marché, ça a été une expérience plutôt mauvaise parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de délai. Donc il y a eu énormément de cafouillage. Alors il y a eu aussi des problèmes d'ordre juridique. Par exemple, dans .gov, il y a le Congrès et la Constitution ne permet pas au président de donner des ordres au Congrès. Donc, les House.gov et Senate.gov ont refusé de signer à cause de ça. Mais il y a aussi des problèmes beaucoup plus pratiques, qui est que tous les gens pour obéir à l'ordre ont signé, tous les gestionnaires de zone dans .gov pour obéir ont signé en vitesse et ont mal fait le boulot et ont tout cassé. Et, ça montre bien qu'en matière de sécurité, c'est pas tout de faire des ordres et des belles règles, il faut aussi prévoir des moyens humains derrière.
Il avait aussi signé un ordre disant qu'il fallait imposer IPv6.
Exactement. Et puis Apple vient d'imposer TLS et IPv6, si j'ai bien compris les annonces de la dernière keynote aussi.
Bref, ouais, je t'avoue que j'ai pas regardé la keynote en vidéo, j'ai juste lu les résumés dans la presse. Mais j'ai vu des résumés qui disaient qu'effectivement ils allaient imposer les chiffrements partout, mais je sais pas ce que ça veut dire.
Oui, et puis bon, parce que d'autant plus que si on dit que l'application doit utiliser HTTPS ou sinon elle doit demander une exception particulière, HTTPS avec ou sans vérification du certificat, ça fait une énorme différence. Et c'est ça le piège que je vois dans l'annonce d'Apple. Donc pour revenir à l'analyse de sécurité, l'administrateur système dépend en fait du DNS à des tas d'endroits dont il ne se rend pas compte. Hein. Par exemple, on parlait de TLS. pas mal d'autorités de certification t'attribuent un certificat simplement si tu es capable de recevoir un cookie envoyé à une certaine adresse de courrier. Et donc, si tu contrôles le DNS, tu contrôles la délivrance du courrier, et donc tu peux recevoir le message et pouf. Donc, en fait, la sécurité d'X509 elle-même repose sur celle du DNS.
Oui, bah, tu peux faire la même chose avec BGP. Hein. C'était une présentation de Nancy sur le sujet où tu te fais hijacker des réseaux BGP juste pour envoyer du spam avec des adresses IP fraîches. Quoi.
Tout à fait. DNSSEC garantit que la liaison entre le nom et l'adresse IP est correcte. Et ensuite, BGP-SEC, quand il sera déployé, garantira que entre l'adresse IP et la machine que tu joins, la liaison est correcte et que tu n'as pas été envoyé vers une autre machine. Mais je dirais, chacun gère son bout du travail. C'est bien de sécuriser BGP. Nous, on travaille dans le DNS, on sécurise le DNS. L'idée étant que chaque composant de l'Internet soit lui-même sécurisé, c'est-à-dire ça paraît quand même la moindre des choses. Je pose une question à une base de données, je veux que la réponse soit authentique. C'est quelque chose que en local c'est facile à obtenir, à moins que quelqu'un ait modifié le contenu de la base dans votre dos, mais en local c'est facile à obtenir, en réseau c'est beaucoup plus dur. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on aura ça, on pourra dire bon ben je fais une requête DNS, le résultat est bien celui qu'avait prévu le titulaire de la zone. À partir de là, on pourra faire des analyses de sécurité correctes sur le reste. Pour l'instant, on a un peu une sécurité sur Internet qui est bâtie sur le sable, puisque rien n'est sécurisé. Donc, on essaye de faire des bouts de sécurisation, comme TLS, mais c'est embêtant. Ça résout pas tous les problèmes, disons. Bon, je reprends toujours l'exemple du courrier électronique, hein, c'est l'exemple typique. Qui, ici, impose TLS sur ses serveurs SMTP? Il refuse du courrier sans TLS.
Oui, mais Google faut que TLS, enfin SMTP TLS, tu ne vas le déployer et t'en servir qu'exclusivement qu'avec un ou deux partenaires de manière très exceptionnelle, c'est tout, au grand maximum.
C'est pour ça qu'actuellement, la distribution du courrier, par exemple, est peu sécurisée. Et ce que je comptais demander après, c'est quand les gens, même quand les gens disent, et moi j'impose, j'ai TLS sur mes serveurs messagerie, voire je l'impose, et est-ce que vous vérifiez les certificats? Et là, quasiment personne ne le fait, parce que les certificats des serveurs SMTP, c'est en général du grand n'importe quoi. Ils sont presque tous auto-signés et expirés, souvent les deux à la fois.
Oui, enfin, le fait qu'un certificat soit auto-signé, c'est pas forcément un problème. Si tu peux apporter la preuve de l'origine de l'auto-signature, hein,
ça marche bien quand
qu'il soit expiré ou qu'ils aient pas le bon FQDN, oui, effectivement, par contre, c'est extrêmement souvent. Ouais.
Et l'auto-signé, ça marche bien quand c'est une liaison avec quelqu'un qu'on connaît et où on peut manuellement estimer que mettre que le certificat est correct. Mais quand c'est dans le grand internet, en général, ça ne fonctionne pas. On peut pas vérifier chaque certificat de chaque correspondant. C'est pour ça qu'on a inventé ce système génial des autorités de certification qui marche si bien.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait du certificate pinning parce que ça marche pas si bien que ça. Donc du coup, est-ce qu'on peut faire du pinning, comme l'avait posé la question qu'avait posé Nicolas au tout début, est-ce qu'on peut faire du pinning sur DNSSEC?
Ah, Jean-Marie, est-ce que tu peux décrire ce qu'est le pinning?
Donc le certificate pinning, en fait, c'est le fait de s'accrocher. Alors généralement, on peut s'accrocher à plusieurs endroits, mais c'est s'accrocher sur le condensat de la clé publique. Soit d'un certificat, soit de son autorité de certification ou de sa sous-autorité de certification. C'est-à-dire que typiquement, si moi je sais que par exemple www.machin.fr est signé par l'AC VeriSign, et cet AC public-là, l'AC 1 on va dire, je vais prendre la clé publique et ensuite je vais la hacher, et quand je vais faire ma vérification de chaîne, je vais simplement prendre la chaîne de vérification, je vais faire le hash de la clé publique et je vais vérifier simplement si les deux correspondent. Et donc là, je sais que c'est bien cet AC-là qui a bien signé la clé. Et donc, ça me permet d'exclure toutes les autres AC qui sont dans mon magasin de clés.
L'équivalent pour DNSSEC, c'est un peu ce que je décrivais avant, c'est pour prendre un scénario d'usage pas trop tiré par les cheveux, le gouvernement français qui voudrait pouvoir valider les domaines FR indépendamment de la racine, de manière à ne pas dépendre de la racine, peut mettre dans ses résolveurs la clé de FR. L'AFNIC publie cette clé sur un site web en HTTPS, donc on peut la télécharger, la vérifier. Je ne dis pas qu'on encourage cette pratique, parce que elle a quelques inconvénients en termes de gestion des clés, c'est que quand on change la clé de .fr, il faut que les gens qui les aient mis dans le résolveur les changent aussi. Et ça, il n'y a pas de mécanisme propre. Il y en a un en théorie, il faut pas vraiment été testé, donc vaut mieux pas trop compter dessus. Si jamais on le faisait, il faudrait prévenir beaucoup de gens, envoyer beaucoup de mails. Donc je dis pas qu'on encourage ça, mais en tout cas on le permet en publiant les clés sur le site web. C'est donc une forme de pinning. Mais en fait c'est moins grave sur le DNS que sur X509, parce qu'il y a vraiment une grosse différence qui est essentielle. Ce que moi je trouve insupportable dans X509, c'est pas que son AC, celle dont les clients puissent vous trahir. C'est-à-dire qu'on puisse être trahi par un fournisseur ou par un sous-traitant, c'est normal. Ce qui est insupportable avec X509, c'est qu'on peut être piraté par des gens avec qui on n'a aucune relation, aucun rapport, dont on n'est pas client, qu'on n'a pas choisi. Avec DNS, ça n'est plus le cas. Comme les clés découlent de la racine de manière arborescente, on est dépendant de ses parents. Par exemple, si on choisit d'avoir un .fr, bon, ben, on fait confiance à la fille. Mais uniquement celle-là. C'est-à-dire que VeriSign peut faire après tout ce qu'ils veulent, en bien ou en mal, ça n'affectera pas les signatures en .fr, et réciproquement. Donc ça fait que dans DNSSEC, il y a un alignement entre les prestataires, les fournisseurs qu'on a choisis et la sécurité. Il faut toujours faire confiance à ces prestataires, donc on est toujours dépendant de quelqu'un, mais dépendant de quelqu'un qu'on a choisi. Avec X509, ce modèle, au contraire, disparaît, puisque il faudrait faire l'analyse de sécurité de toutes les AC du magasin, ce qui est évidemment pas possible.
Oui, ou qui conduirait carrément à des résultats où tu arrives à la conclusion que les AC sont pas trop stables, mais bon.
Mais là, je dis pas que les registres qui signent avec DNSSEC soient tous des dieux ou parfaits ou tout ça, mais au moins, on est dépendant que de ceux qu'on a choisis. Donc, pour reprendre l'exemple du .ly, si on a choisi un .ly, on est dépendant du registre de .ly, à la fois du point de vue de sa compétence technique et de son honnêteté. Mais uniquement du .ly. C'est-à-dire, si on a choisi un .ly, après, les gens du .fr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas t'affecter. Et réciproquement. Ça, c'est important pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on sait quels sont, on sait qui peut influencer notre sécurité et donc qui doit être audité, vérifié, qui doit être de confiance.
On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de grands opérateurs comme Free ou Google qui avaient déployé DNSSEC, mais il y en a aussi qui l'ont pas fait. Alors, justement, pour un administrateur système ou pour un opérateur ou un hébergeur ou une infrastructure dite de cloud, quelles sont les raisons pour lesquelles ils déploient pas DNSSEC et ils font la sourde oreille vis-à-vis de leurs clients qui leur posent la question?
Alors, il y a plusieurs raisons, hein, évidemment. Il faut leur demander à chaque fois pourquoi ils le font pas. Certaines sont purement d'ordre matériel, pas d'argent. La raison la plus courante est quand même un problème classique en sécurité. Quel est le retour sur investissement? Si je consacre mon argent à développer des fonctions qui vont apporter un peu de fonctions, je vais peut-être avoir plus de clients, ou des clients qui payent plus cher, ou des choses comme ça. Si j'améliore la sécurité, est-ce que je gagne des clients? Non. Quels sont les clients qui regardent la sécurité d'un fournisseur avant? Bon, à part quelques parano, est-ce que Free a gagné? Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui ont quitté Orange pour aller chez Free parce que Free valide avec DNSSEC? Je pense pas. Donc on ne peut pas compter sur le retour sur investissement. Il faut donc compter sur le risque qu'une attaque se produise. Et là, ce genre-là, on sera content d'avoir pris des mesures de sécurité. Le problème, c'est que les empoisonnements DNS sont très difficiles à détecter. Imaginons que quelqu'un empoisonne un des résolveurs d'Orange. Alors, il y a combien de résolveurs d'Orange? Effectivement, il y a plusieurs dizaines pour servir tous leurs clients. Quelqu'un réussisse à en empoisonner un, on va constater quoi? On va constater que certaines personnes disent « c'est curieux, mon compte en banque a été vidé, pourtant je suis bien connecté au site de ma banque, j'ai bien tapé l'URL, j'ai pas cliqué dans un spam ». Et en fait, ces gens-là ont pu être victimes de l'empoisonnement DNS, mais on va avoir du mal à enquêter parce que entre l'empoisonnement DNS et le moment où ils constateront que leur compte en banque s'est fait vider, il peut s'écouler un certain temps. Ça frappera certains utilisateurs d'Orange et pas d'autres, puisque parce que leurs résolveurs n'ont pas de cache partagée. Il n'y a pas de trace qui est gardée des données dans le DNS, donc elles sont oubliées aussitôt. Donc on mettra, quand les gens signaleront le problème, le TTL aura fait son office et les données pirates auront disparu. Donc c'est vraiment très difficile de faire du forensic sur une attaque par empoisonnement DNS. À cause de ça, ces attaques sont en général sous-estimées.
Et moi, du coup, j'ai une question d'un point de vue pure performance, parce que du coup, la réponse, je suppose qu'elle est trop longue pour tenir dans un paquet UDP. Donc, normalement, on passe en TCP. Et du coup, est-ce que là, il y a eu des études d'impact si on déployait ça à l'échelle de tout Internet, parce qu'on passe de messages courts de type UDP à du TCP full, quoi.
Alors là, je répondrai en deux temps. D'abord, non, pour l'instant, on n'a pas abandonné UDP. Le trafic DNS reste dans son écrasante majorité de l'UDP. Un paquet UDP peut faire 64 kilooctets, même en RSA, même avec des clés de 4096 bits, ça tient largement. Donc il y a eu des petits problèmes de taille liés en fait à des effets de seuil. Hein. Les 64K d'UDP, c'est un des seuils. Un autre seuil courant, c'est les 4096 qui sont la limite, 4096 octets qui sont la limite par défaut de la plupart des serveurs DNS, c'est-à-dire qu'ils sont configurés par défaut pour ne pas envoyer de données de plus de 4096, donc inférieur à la limite du DP. Il y a un autre seuil qui est la taille des paquets Ethernet, 1500 octets. C'est là où arrivent les problèmes de MTU. L'autre jour, il y avait un problème sur le domaine rip.net, par exemple, le domaine du RIP qui est signé avec DNSSEC. L'un des serveurs secondaires avait un problème de MTU, donc ne répondait. Le paquet partait, mais n'arrivait jamais. Et le dernier seuil qu'il y a, c'est 512 octets, qui était l'ancienne limite du DNS, qui a été supprimée il y a 15 ans. Mais l'Internet et l'informatique, c'est très, très vieux. Il y a encore des gens qui font tourner IE6 sur Windows 98. Donc, il y a encore des gens, il doit encore y avoir des documentations, il y a encore des gens qui, pour passer des certifications, quand on leur demande la limite de taille d'un paquet DNS, répondent 512 octets. Ça peut encore arriver. C'est plus vrai depuis 15 ans, mais c'est le genre de fausse information qu'il est à peu près impossible de supprimer du web qui continue à traîner dans des tas d'endroits. Donc aujourd'hui, comme les réponses typiques DNS, elles sont en gros 1000 octets maximum, ça dépend de pas mal de paramètres. Enfin, en gros, typiquement, ce qu'on rencontre par exemple sur .fr, c'est toujours inférieur à 1000 octets, donc ça tient dans un seul paquet Ethernet, et donc ça tient dans un paquet UDP par la même occasion. Mais on aura des problèmes, effectivement, si par exemple on se retrouvait avec des réponses un peu au-dessus de 1500 octets, parce que tout à coup on aurait tous les problèmes de MTU dans la gueule, et c'est vrai qu'ils sont assez pénibles. Maintenant, pour le coup de TCP, il y a effectivement un certain nombre de gens qui pensent que le DNS va migrer petit à petit vers TCP pour des raisons liées par exemple aux attaques par réflexion qui sont pénibles, même si elles sont maintenant beaucoup moins fréquentes qu'il y a 2 ans. Elles ont migré vers NTP, SSTP, donc on les voit beaucoup moins dans le DNS maintenant, ou bien que TCP faciliterait des opérations comme notamment le chiffrement, les communications DNS dont on parlait au début. Donc il est possible que le DNS migre vers TCP, mais ça n'est pas garanti. Et de toute façon, c'est pas obligatoire. Un DNSSEC fonctionne très bien avec UDP.
Ce que disait Jean-Marie, c'est que quand ça passait en TCP, donc je pense principalement à cause du MTU, c'était plus lent qu'en UDP.
C'est plus lent si on fait une connexion TCP par requête DNS. Alors là, dans ce cas-là, c'est catastrophique. Notamment, le DNS a besoin d'une latence très faible, et avec TCP, il faut le three-way handshake au début, puis envoyer la requête. Donc, du point de vue de latence, c'est une catastrophe. Et donc, si on fait une connexion TCP par requête DNS, c'est pas la peine. Par contre, ce qui est envisagé, et ce qui est déjà, c'est un truc sur lequel travaille l'IETF, c'est d'encourager à avoir des connexions TCP persistantes. Actuellement, le DNS permet TCP, mais ce n'est pas très bien spécifié. Donc, l'idée, c'est de spécifier que les connexions TCP sont persistantes. Donc, on peut faire passer plusieurs requêtes dedans. Donc là, la latence devient la même que celle de UDP, juste un paquet de questions, un paquet de réponses. Et de permettre aussi des trucs comme de permettre à une réponse d'arriver, quand deux questions sont envoyées dans un certain ordre, de permettre aux réponses d'arriver dans un ordre différent. Actuellement, dans la plupart des implémentations de DNS, sur une même connexion TCP, c'est strictement séquentiel. Donc, dans ce cas-là, il suffit qu'il y ait une réponse qui mette longtemps à arriver pour bloquer toutes les autres. C'est intolérable. Donc, l'idée est de permettre au serveur de réordonnancer, puisque pour trouver la correspondance entre une question et la réponse, on n'a pas besoin de l'ordre. Il suffit d'utiliser le query ID et la question qui est répétée dans la réponse. Donc, il y a des travaux pour améliorer TCP, pour le rendre plus raisonnable. C'est d'ailleurs pareil pour TLS aussi. Il y a tout un tas de travaux pour rendre TLS meilleur du point de vue de la latence.
Mais moi, je reviens sur les histoires d'empoisonnement. Là, c'est quand même des choses qui sont déjà produites. Simplement, ça s'est jamais fait. Enfin, peut-être à l'époque de l'attaque de Kaminsky, mais ça s'est jamais fait à l'échelle d'un opérateur. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un malware sur le PC de l'utilisateur qui change ses DNS, ou éventuellement, maintenant, ce qu'on voit, c'est des trucs qui vont aller modifier la config de la box. Parce que souvent, quand tu utilises la box, elle se déclare comme DNS pour ton réseau local. Via le DHCP, et ensuite tu peux aller modifier les paramètres de config de la box, soit en utilisant login par défaut, soit carrément en faisant du CSRF, et du coup aller changer le DNS parent de la box. Donc ça, c'est des trucs qui existent dans des malwares actuellement.
Alors oui, ça c'est très utilisé, mais en général, on met pas ça dans la rubrique empoisonnement. C'est une autre attaque. L'attaque dans ce cas-là, DNSSEC protège pas contre ça, hein, puisque de toute façon, si le pirate contrôle ta box, a fortiori s'il contrôle ta machine, t'es de façon assez mal. Il y a plus grand-chose de possible après. Donc l'empoisonnement des, mais là, il faut que le pirate trouve le moyen de contrôler la box ou la machine. Ce qu'il y a de formidable dans l'empoisonnement DNS, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir le contrôle de la machine. Autrefois, à une époque, pour donner une idée de comment était l'empoisonnement à une époque et pourquoi ça est moins utilisé aujourd'hui, à une époque, on pouvait envoyer à un serveur DNS une réponse à une question qu'il n'avait pas posée. Il fallait générer la réponse. En UDP, c'est trivial, il n'y a aucun mécanisme qui empêche de tricher. On envoie le paquet avec dedans des données quelconques, ce qu'on voulait, et le résolveur, bien qu'il n'ait jamais posé la question en question, le gobait. Ça, c'était il y a très très longtemps. C'était à l'époque de... quand les dinosaures étaient petits. Hein. Ce problème-là a été réglé, et maintenant, les résolveurs vérifient, ils gardent en mémoire les réponses les questions qu'ils ont envoyées, et ils vérifient que la réponse correspond à une de ces questions. Les autres sont considérés comme réponses martiennes, de la planète Mars, et sont logués par Byte. Et on est toujours surpris, quand on regarde les logs d'un résolveur, de voir qu'il y a encore des réponses martiennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent ce vieux truc, qui ne marche sans doute plus depuis très longtemps. Alors après, il y a eu des perfectionnements, mais il y a eu encore d'autres faiblesses. Par exemple, on pouvait mettre dans une réponse légitime, rajouter dans une réponse DNS, il y a plusieurs en fait resource records, on pouvait en ajouter d'autres portant sur d'autres domaines. La réponse était acceptée, c'était bien la réponse légitime, mais on en profitait pour en plus donner des informations qui empoisonnaient le résolveur. Ça aussi, ça a été fermé, ce problème-là, en ayant un système qu'on appelle le contrôle du bailliage, qui vérifie que les informations données par un serveur sont dans son bailliage, c'est-à-dire dans la zone qu'il contrôle. Donc, par exemple, si on interroge le serveur de google.com et que dans la réponse, il y a des informations sur hsc.fr, c'est hors bailliage, donc c'est forcément pas correct, donc on les jette. Donc toutes ces précautions font que l'empoisonnement est devenu plus difficile. Pas impossible, mais plus difficile. Après, il y a des hauts et des bas. Kaminsky a trouvé une méthode qui le rendait à nouveau facile. On a trouvé une méthode qui le rendait à nouveau difficile. Il y a des alternances comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ça qui est embêtant effectivement pour justifier les investissements sur DNSSEC, c'est qu'on ne sait pas vraiment combien il y a d'attaques par empoisonnement parce qu'on ne monitore pas. On ne sait pas. Les gens qui gèrent un résolveur ne monitorent pas le contenu du cache pour voir si des domaines très sensibles, genre paypal.com par exemple, ont des mauvaises réponses. Quand on utilise des systèmes dits de massif DNS qui capturent le trafic DNS sur le réseau et qui ensuite le stockent dans une base de données NoSQL pour qu'on puisse interroger, on découvre des tas de réponses qui sont fausses, particulièrement quand on regarde en Chine, hein, mais ça arrive aussi dans d'autres pays, et on ne sait pas vraiment combien ont été acceptés par les résolveurs, combien sont trouvés, parce qu'il n'y a pas de politique d'examen systématique des résolveurs. Enfin, il y a peut-être des gens qui font ça, mais je ne les connais pas. Il y a des boîtes qui ont fait un service. Hein, par exemple, Lexis, sauf erreur, a un service où on peut dire, ben voilà, moi je suis le titulaire de tel nom de domaine, il m'intéresse. Donc la bonne adresse IP pour ce nom de domaine, c'est tant. Donc tu monitors les résolveurs de la plupart des grands FAI français, et si tu vois passer un jour une autre adresse IP, c'est qu'il y a un problème, et tu me le signales. Mais ça, à ma connaissance, ça n'existe que comme service privé. Il n'y a pas de gens qui monitorent régulièrement. Et il faut se rappeler qu'un empoisonnement a une durée de vie limitée. Hein. Au bout d'un moment, le résolveur reboot, ou bien son cache est plein et vire des données. Donc il faut l'interroger si on veut... S'il voulait monitorer paypal.com, par exemple, et voir si quelqu'un a réussi à l'empoisonner, il faudrait des requêtes assez fréquentes. Il faudrait plusieurs requêtes par jour à tous les résolveurs de France, pour au moins tous ceux des grands FAI. Mais je rappelle qu'un opérateur a des dizaines de résolveurs différents pour ses clients, et qu'on les monitore tous et qu'on voit ce qui se passe. Alors, comment actuellement c'est pas fait, en fait, on ne sait pas réellement s'il y a des empoisonnements ou pas. On soupçonne qu'il y en a parce qu'en labo, c'est facile à faire. Donc on se dit, les criminels, ils sont pas cons quand même. Si c'est si facile à faire en labo, ils doivent exploiter ça. Mais c'est une attaque qui laisse très peu de traces. Ça dure une heure, deux heures, douze heures dans la mémoire du résolveur, et ça disparaît, et ça n'a pas été enregistré. Il n'y a pas de... C'est jamais logué. Enfin, il y a très peu de gens. Enfin, un peu plus maintenant avec la mode du big data, mais jusqu'à une époque très récente, un opérateur d'un gros résolveur ne loguait pas la totalité des requêtes et la totalité des noms. C'est-à-dire que dès que le nom était purgé de la mémoire du résolveur, il ne laissait aucune trace. Donc en fait, on ne sait pas vraiment.
Mais le truc auquel tu fais référence, c'est l'histoire du poivre du Sichuan, avec les Chinois qui filtrent leur réseau en envoyant des requêtes, des réponses DNS aléatoires.
Oui, alors il y a effectivement ça, ce qui fait qu'on regarde une base DNS, passif DNS qui est en Chine, on voit plein de trucs effectivement bizarres, mais il peut y avoir aussi des attaques plus délibérées. Le cas de la censure chinoise, c'est qu'il modifie les réponses DNS pour empêcher les gens d'aller sur le site, ou peut-être pour attaquer un tiers. C'est l'attaque poivre du Sichuan. Ce que, quand on fait de l'empoisonnement en général, c'est pour détourner le trafic vers quelque chose qui va ressembler au vrai. Par exemple, si je veux intercepter le courrier de PayPal, ben je mets un faux MX pour paypal.com qui pointe vers mes serveurs à moi. Et là, tous les serveurs SMTP de la planète vont envoyer le courrier à mon domaine, où je pourrais, par exemple, l'espionner, le modifier, enfin, faire ce que je veux. Et ça, c'est casse-gueule parce que ça ne laisse pas de traces. C'est quand ça a marché, ça ne laisse pas de traces, on ne le voit pas. Les gens après se rendront compte, mais c'est bizarre, tout mon argent sur mon compte en banque a disparu, pourtant je suis sûr d'avoir, j'avais un bon mot de passe, j'ai pas visité de site porno, j'utilise OpenBSD, donc j'ai pas été attaqué par un malware Windows. Comment ça se fait? Ben, une des explications possibles, c'est ça.
Ouais, il faut, si tu vérifies que tu as bien le petit cadenas sur le site où tu vas. Et...
Alors oui, si c'est un site en HTTPS, il y aura un avertissement de sécurité, effectivement. Mais alors après, c'est la question de comment sont traités les avertissements de sécurité. La réponse est qu'ils sont pas toujours bien traités.
Ouais. Et donc là, vous parliez du gouvernement chinois, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements qui essayent de mettre en place du blocage, etc., pour empêcher des gens d'aller sur certains sites. Demain, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que DNSSEC résout le problème en les empêchant de le faire, ou est-ce qu'il est totalement compatible avec ce genre d'obligation?
Pardon, j'ai raté un bout. C'est quel genre d'obligation?
Alors tout ce qui est aujourd'hui qu'on voit passer dans les lois dans beaucoup de pays. Hein. On peut parler aujourd'hui de la France qui demande des blocages administratifs de sites. Où donc là, bah, en fait, elle envoie des réquisitions aux opérateurs, etc., pour qu'ils bloquent les sites. Et donc, les sites, ils sont bloqués au niveau des DNS. Qu'est-ce qui va se passer demain lorsque un opérateur recevra une demande de blocage d'un site?
Alors, ça dépend justement d'où se fait la validation. Si on prend l'exemple de Free, puisque Free fait de la validation DNSSEC, et en même temps, Free implémente la liste noire... Les deux sont compatibles parce que c'est le même résolveur qui fait les deux. C'est-à-dire c'est lui qui valide et en même temps c'est lui qui ment pour les noms de domaine qui sont censurés. Un autre mode de déploiement de DNSSEC, c'est d'avoir son propre résolveur. C'est par exemple ce que j'ai à la maison, j'ai mon propre résolveur sur la machine que je contrôle. Et dans ce cas-là, je peux, s'il y a une tentative de... dans ce cas-là, il n'y a pas de modification vraiment possible, puisque je ne passe pas par des résolveurs d'un FAI. S'il y a modification route par le réseau, comme c'est le cas en Chine, je le détecterai. C'est-à-dire, je verrai qu'il y a un problème comme avec tout système de contrôle d'intégrité. Ça ne me permettra pas de le corriger. Ça me permettra au moins de détecter le problème et donc de ne pas être redirigé silencieusement vers un autre serveur. Mais c'est vrai qu'un des problèmes que posent les systèmes de censure, en plus des problèmes politiques, hein, mais un problème technique que ça pose, c'est qu'effectivement, ça va à l'opposé de l'objectif DNSSEC. Nous, d'un côté, on essaye de maintenir l'intégrité, de garantir l'intégrité du DNS, et puis à l'autre bout, on essaye au contraire de le faire mentir pour atteindre des objectifs politiques. C'est vrai que ces deux objectifs s'entendent pas bien.
Et donc, au début, tu parlais beaucoup de donc DNSSEC qui est pour l'intégrité, et vous avez l'extension qui va arriver sur DNS Privacy pour la partie confidentialité. Est-ce qu'à un moment, vous allez faire un seul protocole et le mettre à jour ou pas? Ou est-ce qu'il y aura deux implémentations et on pourra faire l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on aura forcément les deux à la fin?
Pour l'instant, c'est les deux parce qu'il faut déployer de manière incrémentale. C'est le problème classique de l'Internet. Hein. On ne peut pas repartir de zéro et remplacer le protocole par un meilleur. Il y a des tas de gens qui voudraient refaire le DNS en partant de zéro. On a des tas d'idées. Mais le problème, c'est le déploiement de ça, puisqu'on ne peut pas... On peut pas tout arrêter et changer quelque chose. Donc dans les deux cas, on va être obligé de faire un déploiement incrémental et de faire des technologies orthogonales. C'est pas forcément une bonne idée. De toute façon, le web, par exemple, n'a toujours pas de mécanisme de vérification de l'intégrité des données. Qu'on dise pas TLS, hein. TLS ne vérifie pas l'intégrité des données, il vérifie juste l'intégrité du canal. Quand on a, par exemple, un site web qui est copié sur un miroir, on n'a aucun moyen de vérifier que le miroir est authentique ou pas. Donc, actuellement, le web n'a pas de mécanisme de contrôle d'intégrité et de signature des données. Alors que le DNS en a un. Et donc, quand il y en aura un dans le web, il ne sera pas forcément intégré à TLS. Puisque TLS s'attaque au canal et pas aux données.
Enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est est-ce qu'on aura DNSSEC en version... confidentialité plus intégrité, ou est-ce qu'on aura DNS, DNSSEC et en plus à côté DNS Privacy? Est-ce qu'on aura trois protocoles ou deux?
DNSSEC n'est pas un protocole différent. C'est le même DNS, même port, même logiciel. Et le cahier des charges prévoyait justement des fortes exigences de compatibilité. Les signatures sont transportées elles-mêmes dans des resource records. Donc les signatures sont elles-mêmes stockées dans le DNS et peuvent être interrogées comme un enregistrement DNS normal. Leur encodage est celui d'un enregistrement DNS normal. Ce qui fait que, par exemple, un cache DNS qui ne connaît pas DNSSEC peut relier des signatures, les garder dans son cache, lors de trucs sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Donc, DNSSEC n'est pas un nouveau protocole, c'est une extension. Et après, pour les techniques de chiffrement, ça sera sans doute une technique simplement de transport du DNS, par exemple, pour la proposition qui est actuellement adoptée. En gros, on établit une connexion TCP, on fait TLS par-dessus et on met DNS dedans.
D'accord. Et donc, pour ne pas faire un peu un troll, du coup, DNS Curve, qu'est-ce que vous en pensez, l'IETF? Parce que bon, il y a deux grands protocoles aujourd'hui qui essaient d'adresser le problème de la sécurité de DNS. Hein. Il y a DNSSEC et il y a DNS Curve. DNS Curve, lui, par contre, il prend l'autre partie, c'est... un peu ce qui est comparable par rapport à HTTPS, c'est-à-dire qu'il va chiffrer le canal de communication. Et donc, vous, est-ce que vous voulez vraiment partir de zéro et pas du tout vous appuyer sur DNS Curve? Ou, voilà.
Alors, DNS Curve, de toute façon, bon, n'est pas vraiment dans la course, puisqu'il a connu quasiment aucun déploiement, à part yp.to, je ne connais pas un seul domaine signé avec DNS Curve. À la limite, si on prenait un concurrent, ça serait DNS Script, qui est une adaptation de DNS Curve pour le lien entre le client et le résolveur, qui lui a connu un certain déploiement, parce que OpenDNS l'encourage. Le problème, qu'est-ce qu'on en pense à l'IETF ? Rien, puisque de toute façon, ça n'a jamais été soumis. C'est-à-dire les gens qui sont derrière ces protocoles ne veulent pas soumettre à l'IETF, parce que l'IETF, c'est un travail collectif. Tu ne peux pas envoyer ton truc et obtenir un coup de tampon. Tu es obligé de discuter avec les gens, de les convaincre. On est donc très loin du cryptographe génial dans sa tour d'ivoire qui a raison, le reste du monde, c'est que des cons, et qui veut donc faire son protocole et le garder intact. C'est pas possible à l'IETF. L'IETF, c'est forcément un travail collectif. Après, du point de vue technique, effectivement, DNS Curve et DNS Script sont pas concurrents de DNSSEC, puisqu'ils sécurisent le canal et pas les données. Donc, c'est deux problèmes complètement différents. Par exemple, DNSSEC sécurise le fait que .fr est servi par des boîtes extérieures. Hein, tous les serveurs de FR ne sont pas des machines AFNIC. On sous-traite à des boîtes extérieures qui ont notamment une meilleure empreinte géographique que nous, qui ont des serveurs à plein d'endroits dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on peut leur faire confiance à ces boîtes ? Il y a bien sûr les mécanismes classiques, on les a audités, on les connaît, on les a choisis soigneusement. Mais en fait, avec DNSSEC, on n'a même pas besoin de ça. Puisque de toute façon, les signatures cryptographiques, on les génère nous, et qu'eux les transportent aveuglément. Si jamais un de ces prestataires déconne et se met dans l'idée de changer les données qu'on envoie, ben, ça serait détecté par DNSSEC. Donc ça, c'est l'intérêt de valider les données et pas seulement le canal. Alors après, les autres problèmes plus techniques pour DNSCurve, DNSCrypt, il y a le fait qu'il n'y a pas d'agilité cryptographique, donc ça marche avec un seul protocole. Si jamais la cryptanalyse un jour menace ce protocole, et bien malin celui qui peut prédire les progrès de la cryptanalyse, eh ben, ils seront en chocolat, ils n'auront pas de solution. Indépendamment du fait qu'ils ne veulent pas participer à l'IETF, ils ne veulent même pas participer à quelque chose, à un autre organisme ou à une autre stabilisation. Il n'y a jamais eu de tentative de créer une communauté autour, avec par exemple une fondation. Les gens qui ont une idée, un protocole et qui veulent le promouvoir, bah, soit ils l'amènent à un organisme de normalisation existant, comme l'IETF ou le W3C, soit si pour une raison ou pour une autre ça ne marche pas bien, ils se créent leur propre fondation, leur propre groupe, qui va être utilisé pour promouvoir le protocole en question, développer des implémentations de référence. La personne dont il ne faut pas dire le nom ne fait rien de tout ça. Il est dans son coin tout seul et il ne peut. Il y a une implémentation de référence, mais elle n'est pas maintenue. Il n'y a pas de documentation complète sur le format du protocole, puisqu'il n'y a qu'une seule implémentation. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin de documenter. Il n'y a pas d'interopérabilité. Donc, c'est des solutions. C'est pas des solutions standards. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre du point de vue technique ? Il y avait deux ou trois autres faiblesses techniques. J'ai écrit un article sur DNS Curve, mais je ne me souviens pas. Dans les détails, s'il y en avait une, c'est que comme DNS Curve, les noms des serveurs, la clé en fait, c'est le nom du serveur. Même avec les courbes elliptiques, ça oblige à avoir des noms assez longs et ça limite donc le nombre de serveurs qu'on peut avoir par zone, ce qui est mauvais pour la résilience et ça rend les noms des serveurs pas très manipulables. Bon, ça, c'est pas forcément grave. Et après, quand on parlait de repartir de zéro, oui, non, justement, on ne repart pas de zéro. Pour l'instant, la solution, il y avait plusieurs propositions de travail des prives, dont certaines, effectivement, consistaient à développer un nouveau protocole cryptographique, un nouveau protocole de sécurité cryptographique, et ça, on sait que c'est un truc très casse-gueule, on peut se planter facilement. Donc, le choix d'utiliser TLS, c'était justement de repartir de zéro. TLS, alors... pas besoin ici d'expliquer toutes ses faiblesses et tous ses problèmes, mais il a au moins l'avantage qu'il est connu, il y a des implémentations qui sont auditées, qui sont vérifiées. En gros, TLS a des tas de défauts, mais si on faisait un nouveau protocole, on est à peu près sûr qu'il aurait autant de défauts, et en plus qu'au début, on ne les connaîtrait pas. Donc nous, on ne part pas du tout de zéro, on réutilise TCP et TLS, qui sont des techniques bien connues. Oui, je pense que, en fait, c'est... Il ne faut pas considérer DNSSEC comme une option, comme un truc en plus. Il faut se dire, DNS est un service de base de données sur Internet. Quand un client pose une question à une base de données, il ne demande pas que la réponse soit authentique. C'est évident qu'il y a un problème. C'est évident que le protocole d'interrogation doit intégrer l'authenticité que donc comme des fois on me dit mais Monsieur Michelu ne réclame pas DNSSEC, ben évidemment qu'il ne le réclame pas. C'est pas lui ce qu'il réclame, c'est un protocole de base de données accessible à distance qui marche. Qui marche, donc ça veut dire qu'il soit résilient, qu'il fournisse l'authenticité, l'intégrité, tout ça. Donc DNSSEC aujourd'hui, pour moi, faut pas le considérer comme une option, faut le considérer comme la technique qui est indispensable pour fournir ce qu'attend Monsieur Michu dans l'environnement de l'Internet d'aujourd'hui, qui est quand même un environnement assez hostile.
Ben, merci beaucoup de votre attention. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Salut.